vous suit.
Voici les titres du journal. Bâle organisera l'Eurovision l'an prochain. La SSR a préféré la Cité Rhénane à Genève, deuxième ville encore en lice. B a inauguré hier 2 centrales hydroélectriques le long de l'Avançon. Elles couvriront la totalité de la consommation annuelle de la production de sel et de plus de 6000 ménages. Élection communale valaisanne, suite de notre série Un jour, une commune, avec aujourd'hui un éclairage sur la commune chablaisienne de Colombey-Murat.
Pour la météo du soleil, aujourd'hui du soleil aussi pour ce week-end, mais un temps un peu plus instable. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Xavier Bourgeau. Bonjour Xavier.
Bonjour. Bâle organisera l'Eurovision l'an prochain. La SSR a préféré la Cité Rhénane à Genève, deuxième ville encore en lice, a-t-elle indiqué ce matin. Et c'est avec beaucoup de déception que le canton et la ville de Genève ont ainsi accueilli cette annonce. Les partenaires de la candidature genevoise prennent acte de ce choix et adressent leurs félicitations à Bâle. Rappelons que la Suisse a hérité du concours de la chanson après la victoire de l'artiste Nemo en Suède avec sa chanson The Code.
2 centrales hydroélectriques ont été conjointement inaugurées hier à B.
Les sociétés salines suisses et énergies renouvelables de l'Avançon SA, dont les actionnaires sont Romand d'Énergie et les forces motrices de l'Avançon, ont mis en service la centrale de la Saline de B. Cette unité produira la totalité de l'énergie utilisée à l'exploitation du sel, en plus de la consommation annuelle d'environ 3500 foyers. La seconde, la centrale du Glaret, située en aval de la rivière l'Avançon, produira l'équivalent de la consommation de 3000 ménages par année. Ce double aboutissement permet de continuer à valoriser l'eau de baie. Le syndic de la commune, Alberto Cherubini.
En plus d'avoir de l'eau potable, en plus des rivières, c'est de l'eau qu'on consomme, mais c'est de l'eau aussi qui sert à produire de l'énergie renouvelable. C'est ça qui est très important, c'est l'avenir. On sait que les énergies fossiles tendent à disparaître, doivent disparaître pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc on est très fiers que cet avançon serve aussi à produire beaucoup d'électricité.
À noter que des portes ouvertes au public auront lieu demain dès 10h. C'est un sujet réalisé par Guillaume Abbé.
L'or bleu n'est plus la seule priorité des forces motrices Hongrin-Léman.
Le barrage éponyme accueille désormais des panneaux solaires mis en service il y a 2 semaines. Au total, ce sont près de 720 modules qui ont été installés. Objectif, diversifier les sources de production d'électricité. Nicolas Rouge, directeur des forces motrices Hongrin-Léman, revient sur la genèse de ce projet.
Ça fait une réflexion depuis 15 ans. Comment on peut améliorer l'installation existante? Qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, on a travailler pour doubler la puissance de l'aménagement avec une nouvelle caverne. Ensuite, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec l'installation existante? Est-ce qu'on peut améliorer les performances? Donc on a amélioré les performances en améliorant le rendement des turbines de 2%, ce qui correspond à la production annuelle d'une éolienne. Ensuite, on a été un pas plus loin, réduire la consommation des services internes, parce que là, on a appris qu'on était un peu le cordonnier le plus mal chaussé, parce qu'on consommait pas mal, mais rien en comparaison avec toute une production. Donc on a commencé à réduire toute la consommation. Et en parallèle, lancer un projet, est-ce qu'on peut aussi produire un peu de solaire? Et puis on a été analysé la possibilité de le faire sur le barrage.
Un chantier d'envergure qui a duré plusieurs mois, et ce dans des conditions parfois délicates, comme le souligne Nicolas Rouge, directeur des forces motrices Hongrin-Léman.
Voilà, un grand coup de chapeau en fait à tous les monteurs de Romand d'Énergie qui ont travaillé pendant 3 mois sur des nacelles, parce qu'il fallait mettre les panneaux solaires du côté haut, donc du côté dans le vide en fait quelque part. Et puis ils ont installé 744 modules sur le barrage, donc pendant 3 mois, plein soleil, avec un peu de pluie, avec un peu de vent, donc c'était pas évident.
Alors il faut qu'on comprenne bien, les panneaux solaires ne sont pas face au ciel, disons, sur la tranche du barrage, mais ils sont bel et bien en verticalité, contre le barrage, direction l'eau, c'est bien ça la réalité?
Exactement, en fait ils ont un certain angle, on a calculé le bon angle vis-à-vis de la course du soleil, et puis on a la chance en fait d'être en altitude. Donc en fait, on va pouvoir produire plus en hiver qu'en été.
Et avec cette nouvelle installation photovoltaïque, les forces motrices Hongrin-Léman vont pouvoir alimenter près de 70 ménages. Un sujet réalisé par Ludovic Turin. Genedis, l'entreprise valaisanne des secteurs de l'énergie basée à Vernaya, baissera ses tarifs d'électricité l'année prochaine. Les prix sur le marché de l'énergie ont connu une baisse importante depuis l'automne 2022, mais conservent un niveau plus élevé qu'avant la crise. Dans ce contexte, Genedis baissera donc ses tarifs de 1,8 centimes par kilowattheure en 2025. Cette évolution s'explique essentiellement par la baisse du prix de l'énergie sur le marché, une politique d'approvisionnement rigoureuse, ou encore la diminution des tarifs de transport sur le réseau national, selon un communiqué de Genedis.
Image Vevey revient pour décorer les rues avec les œuvres de sa 9e biennale.
La ville veuveysanne deviendra une nouvelle fois un véritable musée à ciel ouvert. 50 projets artistiques de photographie seront visibles dans toute la ville et notamment dans les jardins Nestlé. La multinationale collabore en effet pour la première fois avec l'organisation et elle présentera les œuvres de 2 artistes de renom dans ses jardins, ouverts au public pour l'occasion. Un partenariat qui peut surprendre au premier abord, mais qui fait sens d'après Stéphane Hochtol, directeur d'Image Vevey.
Bon, Nestlé, c'est quand même 160 ans dans le domaine de l'économie, donc ils en ont vu passer des artistes et puis des projets. Ils ont une très belle collection d'art, en l'occurrence, donc ils ont toujours été intéressés au soutien aussi du milieu des arts et des artistes. Et puis là, on a la chance de pouvoir développer des projets très précis avec eux, où ils soutiennent, en plus d'un sponsoring général, ils soutiennent vraiment des projets liés à des artistes, comme un programme de résidence, comme une exposition dans leur jardin, enfin deux expositions dans leur jardin et puis en façade, comme un prix de recherche et développement où on peut aider un artiste à développer un projet qu'il ne pourrait pas financer lui-même. Donc on peut dire qu'on est très actif dans cette relation et qu'elle est très ciblée sur la communauté d'ici et sur le développement des arts ici.
Stéphane Oustol au micro de Florian Claret.
À l'approche des élections communales valaisannes, chaque commune se prépare à affronter des défis majeurs.
Entre croissance démographique, gestion des infrastructures et transition écologique, les enjeux sont multiples pour l'avenir. Chaque jour, nous mettons donc en lumière une commune de la région pour découvrir les projets qui l'attendent. Aujourd'hui, c'est au tour de Colombey-Murat avec les explications de Ludovic Turin.
À Colombey-Murat, les enjeux des prochaines élections communales seront multiples. À commencer par la question démographique, alors que la fusion avec Monté a été refusée par Colombey-Murat en 2022, les autorités de la localité chablaisienne entrevoient l'avenir en solitaire, alors que la barre des 10 000 habitants devrait être atteinte lors de la prochaine législature. Un chiffre clé qui constituera un réel défi lors des 4 prochaines années, notamment en ce qui concerne les services communaux. Autre dossier important, la planification du site de Tamoil. La zone est d'importance cantonale et pourrait à l'avenir se réinventer. Plusieurs projets sont sur la table, comme une zone industrielle ou encore l'implantation d'une seule grosse entité. Sans aucun doute, l'un des gros enjeux de ces prochaines élections. Au rayon de l'aménagement du territoire, le projet du nouveau cycle d'orientation constituera là aussi un des gros dossiers des 4 prochaines années, tout comme la construction d'une nouvelle salle sportive. Enfin, sur le plan politique, le centre, parti le plus représenté à Colombey-Murat, vise toujours la majorité avec 3 sièges à l'exécutif. 2 pour les socialistes qui ont une nouvelle fois la présidence en ligne de mire avec Olivier Turin, 1 pour le PLR et 1 pour l'UDC. Ces élections communales marqueront entre autres la fin de carrière de plusieurs personnalités engagées au sein de la commune, à commencer par le vice-président libéral radical Alexis Turin, qui ne briguera pas un troisième mandat. Situation similaire pour les centristes Sandra Côté-Parvé et Jean-Luc Planchon.
Et lundi, sa commune voisine Monté sera à l'honneur dans notre journal de la mi-journée. Les loups pourront être tués de manière préventive du 1er septembre au 31 janvier. L'Office fédéral de l'environnement a ouvert aujourd'hui la deuxième période de régulation. 5 cantons ont déjà déposé des demandes. Le Valais a déposé une demande pour éliminer 4 meutes, tandis que dans le canton de Vaud, une seule meute doit être éliminée. L'OFEV analyse les demandes des cantons dès qu'il les reçoit et il veille notamment à ce que le nombre de meutes ne descende pas en dessous de 12 dans le pays.
Les partis politiques suisses lèvent le voile sur une partie de leur budget.
Grâce à la nouvelle loi sur la transparence, on connaît les recettes des partis représentés au Parlement fédéral. Le contrôle des finances a publié ce matin les chiffres pour l'année 2023. Il s'agit de déclarations des sources de revenus des partis nationaux. Les plus grosses recettes sont annoncées par le Parti socialiste, 9 millions de francs, puis l'UDC avec près de 6 millions, suivent le PLR, le Centre et les Verts. Ces données apportent une transparence nouvelle, mais la diversité des modes de fonctionnement des partis rend les comparaisons hasardeuses. Le directeur du contrôle fédéral des finances, Pascal Stirniman, dévoile ce qui peut expliquer ces différences.
Ça peut être, par exemple, le financement des campagnes. Ça peut être qu'une partie campagne directement de ses fonds propres, une campagne politique. Alors les recettes nécessairement doivent augmenter pour pouvoir financer cette campagne. Et puis il y a des autres partis qui font peut-être ces campagnes avec des associations externes. Alors ça veut dire ces moyens, on les voit après pas dans les comptes des partis.
C'est aussi possible qu'une partie soit versée aux sections cantonales ?
Absolument. Avec les sections cantonales, on a aussi une possibilité que ce financement ne se voie pas sur le niveau de la Confédération. Ici, avec ces bases légales, on voit seulement les financements des partis nationaux. Les financements des partis cantonaux ne sont pas visibles.
Des propos recueillis par notre correspondante parlementaire, Marie Vuillemier. Et à noter que les partis devront publier chaque année leurs recettes, ce qui permettra de faire des comparaisons. À l'étranger, l'Allemagne a annoncé aujourd'hui l'expulsion de ressortissants afghans condamnés par la justice. Une première depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021. Il s'agit de ressortissants afghans, tous condamnés par la justice et sans droit de rester en Allemagne, qui ont fait l'objet d'ordres d'expulsion, a précisé le porte-parole du gouvernement. L'opération s'est déroulée dans le plus grand secret, après 2 mois de négociations au cours desquelles le Qatar a joué le rôle d'intermédiaire entre le gouvernement des talibans et Berlin, a ajouté le magazine Der Spiegel. Et l'armée israélienne a indiqué avoir tué hier 7 combattants palestiniens au deuxième jour d'une opération contre les groupes armés en Cisjordanie, qui a fait au moins 16 morts en 48 heures en marge de la guerre contre la Hamas dans la bande de Gaza. Cette opération suscite la profonde inquiétude de l'ONU. Son secrétaire général Antonio Guterres a appelé à sa fin immédiate, condamnant fermement les pertes de vies humaines. Sport en tennis, Carlos Alcaraz a pris la porte dès le deuxième tour à l'US Open cette nuit à New York. L'Espagnol, vainqueur des deux derniers tournois du Grand Chelem et finaliste des JO de Paris, s'est incliné 6-1, 7-5, 6-4 devant le Néerlandais Botic van den Zandschulp, 74e à l'ATP. Et en football, le Servette FC n'a pas signé l'impossible exploit hier soir en Conference League devant Chelsea. Une semaine après la défaite 2-0 à Stamford Bridge, les Grenats se sont imposés 2-1 au stade de Genève. Quant au destin européen de Saint-Gall, il s'est décidé au tir au but sur la pelouse de Trabzonspor en Turquie. Les Brodeurs joueront donc la phase de groupe de Conference League. Et enfin, Lugano n'a pas réussi l'exploit en play-off retour d'Europa League. À Istanbul, les Bianconeri ont perdu 5-1 contre Beşiktaş après un match nul 3 partout au match aller. Et on termine avec du basketball. Stephen Curry va prolonger d'une saison son contrat avec les Golden State Warriors en NBA, la ligue professionnelle américaine. L'arrière de 36 ans est désormais lié à la franchise californienne jusqu'en 2027. Et selon la chaîne ESPN, cette prolongation lui permettra de toucher 62,6 millions de dollars supplémentaires. Rappelons que Steph Curry a toujours évolué aux Warriors, franchise qu'il avait draftée en 2009, avec laquelle il a remporté 4 titres NBA.
L'actu en continu sur radiochablais.ca.